Merci Simon de cette invitation, mais qui m'a, comme l'évoquait Guillaume tout à l'heure, mis également en difficulté quand j'ai dit oui un peu vite. Il me semblait que j'avais des choses à dire sur les dispositifs hybrides, mais quand je me suis mis à réfléchir à ce que je pouvais dire, ça devenait difficile parce qu'effectivement, avec plusieurs casquettes de concepteurs, de formateurs, de chercheurs sur ces questions-là, d'analyse de l'activité, de concevoir des dispositifs d'analyse de l'activité qui intègrent mieux ce que nous disent nos travaux, aussi bien sur l'activité réelle chez les enseignants notamment, et ce qui se fait en formation en termes d'accompagnement. Je ne savais pas trop par quel bout prendre la chose, et donc du coup je pense que je vais vous faire une présentation vraiment hybride, mixte, qui va mélanger des résultats, mais très ramassés, très synthétiques, de recherche, qui va ramasser sur des études particulières ma pratique de formateur, de concepteur, d'accompagnement de formateur dans ces dispositifs-là. Donc ça sera un peu un mélange de tout ça que je vais essayer de présenter, en me focalisant un petit peu plus sur le problème de la temporalité sur un cursus long, enfin au moins d'une année, et de voir comment justement des dispositifs hybrides peuvent être plus favorables pour appréhender cette temporalité-là. Alors, plan qui est le suivant, je ne sais pas où vous en êtes dans la définition, je partirai d'une définition assez consensuelle sur l'hybridation, sur ce double processus d'hybridation, je le présenterai tout à l'heure. Et ensuite, je présenterai des extraits de résultats ou de pistes de réflexion à partir de trois études, une dans un dispositif d'auto-formation accompagnée, une dans un dispositif collectif présentiel hybride et une dans un dispositif présentiel enrichi. Voilà. Et puis j'essaierai de finir sur des pistes en donnant un exemple qu'on est en train de développer, de commencer à développer sur Montpellier avec un collègue formateur. Alors, formation hybride, je vais très rapidement, puisque je pense que c'est des notions évidemment que vous avez déjà discutées, abordées et lues, intègre présence et distance via des technologies, les environnements technologiques étant censés être la plus-value ou ce qui va permettre de faire ces articulations entre le présentiel et la distance. Autre piste qui me semble importante, qui est assez consensuelle dans les travaux, c'est qu'il y a une orientation, une focalisation sur le suivi des apprenants et sur la base de ressources ouvertes, qui ne sont pas à utiliser de manière totalement linéaire, totalement standardisée. Aussi bien pour les formateurs que pour les... Évidemment que pour les étudiants, si on vise des processus d'auto-formation, d'autonomie, etc. Il doit y avoir des espaces de mutualisation, évidemment, et d'interaction. Et enfin, autre caractéristique, c'est que on peut faire le parallèle avec un processus d'innovation. Innovation au sens, c'est une innovation du point de vue des acteurs qui exploitent ou qui expérimentent ces dispositifs. C'est-à-dire que c'est nouveau pour eux. Et donc, du coup, ça pose le problème de la continuité. On a eu des bonnes illustrations avec la présentation précédente. Entre la continuité et la rupture par rapport à des pratiques antérieures. Et si le décalage est trop grand, évidemment, on sait bien qu'il y a des risques aussi bien pour les formateurs que pour les formés d'abandonner le processus ou de ne pas en voir, de voir plus de limites évidemment que d'apports dans ces dispositifs. Alors, je mets en parallèle cette définition très, très large avec des typologies plus anciennes sur les dispositifs de FOAD, formation ouverte à distance. Parce que vous verrez, je pense que ça peut donner des pistes justement sur les processus d'appropriation par les formateurs de ce que c'est que l'hybridation. Parce qu'entre ce qui nous a été présenté juste avant, où là on a fait le pas, je dirais radical, c'est-à-dire qu'on a basculé quand même fortement dans le à distance, et des formes d'hybridation peut-être plus soft ou plus légères, je pense qu'il y a, il y a plein de nuances. Et c'est peut-être une des pistes aussi pour avancer, peut-être sans une rupture radicale, et sur des changements plus accessibles pour tout le monde. Voilà. Alors, la notion de présentiel enrichi, qui est tout simplement l'usage dans, dans des temps de présentiel d'un environnement numérique. Et vous verrez, je vous montrerai à partir d'une petite étude que j'avais fait il y a quelques années, que ça change pour des formateurs expérimentés. La situation et leur posture dans ce format-là. Présentiel amélioré, c'est l'idée qu'on peut préparer du présentiel de manière assez légère, avec un travail en amont et ou un travail en aval. Bon, je pense que ce qui a été fait là, par exemple, dans la préparation de ce stage avec un questionnaire envoyé avant, etc. Bon, c'est du, d'une certaine façon, c'est du présentiel amélioré qui vise à mettre les stagiaires les, en, en attente, à s'engager avec un certain horizon. Il y a un certain nombre de possibles qui commencent, qui peuvent être un peu partagés déjà avant le démarrage du présentiel. Et puis les formations mixtes, donc présence qui allie présentiel et distance, mais là qui peuvent être sur des formats évidemment très différents. Hein. On peut faire du 80% en présentiel et puis du 20% à distance, ou l'inverse. Évidemment, il y a des tendances maintenant qui vont plutôt vers l'inverse. Et éventuellement, ça peut aller vers du présentiel réduit ou quasi inexistant, avec toutes les limites que l'on connaît hein, de ces dispositifs en termes de taux d'échec, d'abandon. Alors, sur, le, sur ce double processus d'hybridation, je pense qu'on peut l'envisager dans, dans deux, de deux façons. C'est sur la base de ce que l'on est capable de faire en présentiel, ou des pratiques antérieures en présentiel, déjà qui peuvent être enrichies, c'est-à-dire en utilisant déjà, c'est ce que nous a présenté Guillaume tout à l'heure, en disant, ben, moi j'ai voulu faire mon à distance en commençant par du présentiel. Donc c'est comment justement transposer ça dans des formes de à distance. Donc on essaiera d'illustrer ça. Donc il y a ce mouvement-là. Et puis il y a le mouvement inverse qui est aussi intéressant à imaginer. C'est comment, à partir de ce qu'on peut faire à distance, on va pouvoir l'exploiter ou le réexploiter dans du présentiel et dans du collectif. Ce qui n'est pas, qui ne va pas de soi non plus, qui n'est pas évident. Donc il y a ce double mouvement, double processus d'hybridation qui est à penser. Alors moi, ce sur quoi je vais m'appuyer comme dispositif hybride, ce sont des dispositifs qui mettent au cœur comme environnement technologique des plateformes de vidéoformation, notamment principalement deux, Neopass Action et la BSD, la banque de séquences didactiques. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez, éventuellement on pourra aller voir ces plateformes. Voilà, donc pour articuler, il y a un premier axe autour du présentiel et à distance. Il y a un deuxième axe autour évidemment du collectif et individuel, comment travailler à partir de ces ressources. Et puis il y a un troisième axe autour de l'accompagnement et puis de modalités qui seraient plus en auto-formation ou en co-formation entre pairs. Voilà, et tout ça évidemment peut être articulé avec la distance et le présentiel. Alors, pour apporter une modeste réflexion là, sur ces questions, je vais partir d'une première étude d'un dispositif d'auto-formation accompagné. Donc, là, on est dans un dispositif, dans un protocole de recherche, donc avec un chercheur qui essaie de comprendre l'activité de navigation sur une plateforme, en l'occurrence Neopass Action. On est dans le cadre de la formation des enseignants débutants. Et en fait, ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer un petit peu ce que ça, le potentiel de navigation, et de voir, de réfléchir sur les conditions de ce potentiel de développement, de transformation, pour voir comment, à partir de ces études-là, on peut se projeter. Voilà, si on doit faire un dispositif d'accompagnement avec des formateurs, là du coup, dans un dispositif, dans un cursus de formation, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, juste pour vous préciser un petit peu l'objet de la recherche, en l'occurrence, hein, elle part du présupposé là que l'activité de comparaison entre ce que des enseignants perçoivent, hein, dans des situations filmées, commentées, des films de classe ou des entretiens sur ces films, et ce qu'ils font dans leur classe, constitue un puissant levier de transformation. Mais on ne sait pas trop de quelle manière, avec quel processus, et du coup, quelle modalité d'accompagnement serait plus pertinent à mettre en place. Donc il y a notamment des phénomènes mimétiques, des phénomènes d'imagination, création, de projection, qui sont importants, qu'on a révélés dans ces études. Donc ces expériences de vidéoformation suscitent-elles ou non des transformations effectives de l'activité professionnelle? C'est un peu la question là autour de cette étude dont je vais vous donner quelques éléments de résultats. Et du coup, on peut se dire, ben là, potentiellement, il y aurait de la plus-value, évidemment, si on est capable de transposer, d'aménager, dans un dispositif de formation, dans des dispositifs plus hybrides. Voilà, donc l'idée, hein, le protocole de recherche, c'est celui-là, c'est de suivre un petit peu le cours d'expérience de cette jeune enseignante et de pister la manière dont elle s'auto-prescrit en naviguant dans une plateforme de vidéoformation des choses qui ont à voir avec son activité personnelle en écho à ce qu'elle voit dans les vidéos. Alors je vais vous montrer un tout petit extrait pour et donc moi dans le protocole de recherche je piste cette utilisation un mois après dans les classes. Donc il y a un suivi qui est réalisé, et donc l'idée c'est de voir que deviennent ces auto-prescriptions dans un environnement numérique, qu'est-ce qu'elles deviennent dans la classe, et donc avec l'idée que ça, si on peut être capable de le suivre par des dispositifs de ce type, donc là dans un protocole de recherche, comment les aménager dans des dispositifs de formation hybride pour être plus performant sur ces questions-là. Alors un tout petit exemple.
Si on peut trouver, essayer de varier les activités au cours d'une séance, parce que moi j'ai des quatrièmes que j'ai en fin d'après-midi et vendredi, et où la semaine dernière ça s'est pas très bien passé dans mon comportement au niveau discipline. Donc voilà, j'ai essayé de voir un petit peu des gestes et une posture à avoir pour.
Donc une navigation qui va durer là dans le protocole de recherche presque une heure, évidemment, qui va lui permettre dans ce temps ramassé de construire un certain nombre de choses. Alors je vais pas. Donc moi je m'intéresse à ce qu'elle s'approprie un grain fin là et pister un petit peu les liens qu'elle fait entre son activité professionnelle, ce qui fait écho dans les pratiques enseignantes. Bon, sans rentrer dans le détail, on pourra y revenir plus tard sur. Je vais passer ces deux diapos si je veux, puisque vous voyez là en fait je reconstruis. Dans le protocole de recherche, en fait, c'est ici ce qu'elle me dit, hein, ces verbalisations simultanées et accompagnées, qui pourraient être accompagnées par un formateur, hein, éventuellement à distance, donc voilà, interroger. Et moi, je reconstruis son activité, là, les liens qu'elle fait entre la navigation, les propos du chercheur, la collègue de PS qui s'exprime sur l'importance du regard de circuler, etc. Et puis la vidéo de Romain d'un enseignant qu'elle perçoit le dos contre le tableau, avec une ambiance très perturbée des élèves. Et du coup, ça lui rappelle des expériences, un vécu un an avant où la formatrice UFM lui avait fait cette remarque-là. Et du coup, elle construit des choses en termes de transformation de sa propre activité. Et elle s'auto-prescrit dans cette situation le fait de plus circuler dans la classe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un mois après, moi, je la revois dans le même protocole. Et on commence le protocole à chaque fois par... En gros, que sont devenues les auto-prescriptions, elle s'en a été fait un certain nombre, de la dernière fois. Et là, elle commente, elle me fait je fais une sorte de récit d'expérience, puisqu'évidemment, j'ai pas de vidéo de classe, là, hein, c'est uniquement sur la base de ce qu'elle a fait. Et là, vous voyez, sur le fait de circuler, les effets que ça a produit sur sa propre activité de classe, puisqu'elle a, c'est quelque chose qu'elle a réellement mis en place au moment de son rituel de début de cours, et du coup, les transformations qu'elle voit chez elle, mais aussi chez les élèves. Hein, je ne reste plus devant le tableau à attendre, mais je circule pour... voilà. Et elle construit des éléments de connaissance là, liés à son expérience sur l'activité des élèves. Le cours démarre plus rapidement, les élèves sont plus calmes plus rapidement. Quand les élèves me voient, ils se taisent automatiquement, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer la façon à un grain fin hein, dont sont pistés, dont peuvent être pistés dans un dispositif de ce type, des choses de l'ordre de l'expérience professionnelle et des transformations projetées et réalisé ou non dans son activité, dans le suivi temporel de son développement professionnel. Ça m'a permis, sur cette base-là, d'identifier un certain nombre de préoccupations, donc celles que vous voyez là de manière plus générique, elles ont été identifiées à un grain fin, comme je viens de vous le montrer. Et vous voyez des préoccupations pour quelqu'un qui démarre dans le métier, hein, ses premières mises en responsabilité, en octobre, voilà, donc... les tensions autour des débuts de cours, les questions d'autorité, les questions de développement professionnel. Et à chaque fois, elle s'est auto-prescrit, en tout cas, elle a imaginé des choses à transformer dans sa pratique professionnelle. Et là, par exemple, ce que j'ai mis en vert, c'est celle qu'elle a réellement mise en œuvre et dont elle peut en tirer une expérience qu'il a fait évidemment avancer professionnellement. Donc ça, ce que je vous montre là en octobre, eh bien je l'ai évidemment de la même façon en décembre, puisque le protocole de recherche est fait quasiment tous les mois. Hein, et donc du coup, là, elle a construit de nouvelles auto-prescriptions. Alors vous voyez les thématiques, on ne va pas rentrer dans les tensions professionnelles construites, puisque ce n'est pas l'objet de la présentation, mais vous voyez que les thématiques évoluent dans le temps. Ça passe sur les rituels de mise au travail, sur la mise au travail dans sa discipline, les mathématiques. Il y a la problématique des sanctions, la problématique de l'usage de soi, comment commencer à penser à s'économiser un petit peu par rapport à toutes les sollicitations qu'elle rencontre. Et là, à nouveau, des autoprescriptions, quand c'est en vert, c'est des autoprescriptions qu'elle a mobilisées dans ses séances suivantes. Voilà, par exemple, envoyer plusieurs élèves au tableau en tout début de cours, mais ça, elle a dû le construire avec un travail de préparation. Et là, on voit bien que là, dès lors que c'est identifié, l'aide d'un formateur compétent sur les domaines à la fois didactiques et pédagogiques, là, peut s'actualiser de manière tout à fait pertinente. Même chose en janvier, donc vous avez compris le processus. Et là, vous voyez qu'on arrive sur des thématiques professionnelles qui sont plus de l'ordre de l'apprentissage des élèves, des problématiques de différenciation, des problématiques de fin de cours. Et on voit bien là, au travers de cette analyse, cette monographie, l'évolution des préoccupations de jeunes enseignants, et que, évidemment, si on est tout de suite sur des questions didactique pointue dans les premiers mois de classe, alors que pour beaucoup, il ne faut pas généraliser, mais pour beaucoup, ils vont être plutôt sur les thématiques de gestion de classe qui se concrétisent, hein, qui s'actualisent, évidemment, en fonction des contextes d'intervention ou des contextes de la semaine. Vous avez bien vu qu'elle n'était pas en difficulté tout le temps, cette jeune enseignante. Elle était en difficulté le vendredi après-midi avec sa classe de quatrième. Mais sauf que par rapport à ça, elle n'avait pas d'outils pour progresser. Donc là, l'idée, c'est de voir de récupérer ses préoccupations, mais de le récupérer à un grain qui correspond à des pratiques effectives et à une réalité vécue, là, dans les situations de classe, puisque là, l'idée, c'est de proposer des dispositifs hybrides pour des enseignants qui sont là en formation, en alternance. Typiquement, ça me semble tout à fait bien approprié pour les futurs M2, pour ceux qui connaissent un petit peu dans les nouvelles maquettes, qui seront dégagées d'une logique de concours et qui seront donc à mi-temps sur le terrain professionnel et à mi-temps en centre de formation. Alors, les questions que je retire de cette petite étude, c'est comment favoriser l'explicitation des préoccupations individuelles en lien avec les scénarios et ou les ressources issues de plateformes, en l'occurrence là de vidéoformation. C'est comment favoriser cette articulation, cette explicitation d'abord des préoccupations en lien avec un scénario qui évidemment devrait pouvoir s'appuyer sur ces préoccupations si la finalité c'est d'accompagner au mieux l'évolution de l'activité professionnelle, hein, puisque là on est dans des dispositifs d'analyse de l'activité professionnelle. Voilà. Et l'autre question dans le prolongement, c'est comment suivre le devenir de ces autoprescriptions qui sont construites hein, dans cet espace médiatisé et médié par un chercheur, mais qui pourrait l'être par un formateur ou éventuellement par des pairs. Donc là, il y a des choses à imaginer. Et donc suivre cette actualisation en contexte professionnel. Puisque là, par exemple, je pense que sur nos dispositifs de formation d'enseignants, mais je pense dans beaucoup de domaines professionnels, ce sont des points totalement aveugles de la formation. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand même assez cloisonnées qui fait qu'on ne sait pas difficilement. Et ça rejoint un peu ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure. C'est-à-dire que globalement, quand on les a en dispositif collectif, on ne sait pas du tout où ils en sont de leurs préoccupations professionnelles et ce qu'ils vivent dans leur classe. Et donc le discours moyen qui est tenu a des limites évidemment sur la pertinence et les apports à un collectif évidemment avec des expériences très différentes. Bon, là je reviendrai peut-être sur ça tout à l'heure pour développer les deux autres études. C'est réfléchir, là l'idée c'était de voir à partir du protocole de recherche quelles pistes on pourrait tirer de ça pour des modalités d'accompagnement réalisées par des formateurs ou des tuteurs. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment vous voyez bien que ça change la posture là, du formateur ou du conseiller ou du tuteur dans cette au moins dans une première phase. Là, en fait, c'est vraiment uniquement dans le protocole de recherche. C'est en gros, les étudiants étaient sollicités en fin de formation. Pour l'idée, c'était de pouvoir explorer à l'époque la plateforme NeoPass Action, qui n'était pas encore mise en ligne. Et donc, c'était d'explorer le potentiel à partir d'une maquette de cette plateforme avec des enseignants, futurs enseignants, qui allaient à la rentrée d'après, après l'été, prendre en charge, en responsabilité, leur classe. Et donc, ceux qui étaient potentiellement intéressés pour explorer ça, eh bien, je les ai invités à participer à ce protocole, mais qui est dans un cadre de recherche. Alors, j'ai appelé ça auto-formation parce que, pour eux, c'était quand même une auto-formation. Ceux qui sont venus, c'était vraiment pour en tirer des billes pour eux. Et accompagner, même si j'avais pas une casquette de formateur, dans cette phase-là, j'avais vraiment une casquette de chercheur. Malgré tout, le discours produit était adressé à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas sûr du tout, évidemment, qu'elle aurait, que ça aurait produit la même chose si elle avait été seule à faire ça dans un environnement, dans le même environnement chez elle.
Mais les ressources n'étaient pas plus scénarisées que ça.
Non. Les ressources étaient des vidéos sur lesquelles on pouvait cliquer avec des titres qui indiquaient plus ou moins la teneur de ce qu'on pouvait y trouver. Le deuxième dispositif que je vous propose de regarder, alors ça c'est un dispositif qu'a mis en place, qui a été mis en place par des collègues formateurs de l'UFM l'année dernière, et que j'appelle donc un dispositif collectif présentiel. Alors j'ai mis hybride, j'aurais pu mettre enrichi aussi, parce qu'en fait le caractère hybride est vraiment dans le sens par rapport à la notion de distanciel est très limité, puisqu'en fait c'est simplement de dire aux étudiants, vous avez la possibilité, ils ont été inscrits sur la plateforme Néopass Action, et les vidéos qui leur sont montrées en cours en présentiel, eh bien évidemment ils peuvent continuer à faire ce travail là du coup en auto-formation, mais sans que ce soit ils ont l'accès à la plateforme, ils sont inscrits, mais on ne sait pas, il n'y a pas d'accompagnement particulier sur ce travail là mais du coup là je me focalise sur ce qui se passe en formation en collectif à partir d'un travail que vient de finir une UM2 recherche qui a travaillé sur l'activité des formés dans ce dispositif hybride. Alors, vous voyez que le scénario qui est proposé, ça vise à apprendre à analyser des vidéos de classe. Et il y a un certain nombre de vidéos qui sont proposées dans le dispositif collectif, qui sont des ressources issues de Néopass. Voilà, alors ça se situe, là ça doit être illisible parce que c'est une copie de la fiche du E, enfin, du programme dans lequel ça s'insère, hein. Ça s'insère en thématique 4. Donc à chaque fois, donc il y a des CM qui sont faits en présentiel, il y a des PD qui sont faits et qui sont en lien plus ou moins avec ces CM. Ouais. Et donc ce que je vous un petit voilà, et il y a une fiche dans ce TD là, il y a une fiche à documenter qui est structurante pour les étudiants et pour le formateur. C'est à partir des vidéos qui sont consultées d'analyser l'activité, le moment de classe, à partir de cette fiche qui est l'orientation de l'activité du formateur. J'ai une étudiante en M2 recherche qui, elle, s'intéressait au vécu pendant cette situation collective de formation, au vécu des étudiants, l'enseignant en formation, qu'ils avaient notamment quand ils regardaient les vidéos de classe. Et elle a proposé ce questionnaire sur l'activité silencieuse de visionnement qu'il documentait juste après le visionnement. On avait négocié que pendant 30 secondes, une minute, individuellement, donc sur cette fiche-là, ils pouvaient documenter leur ressenti personnel entre sensation de confort et inconfort. Donc ils avaient un curseur et puis ils mettaient une croix à gauche ou à droite, très inconfortable, très confortable. Avez-vous pensé à votre propre pratique en regardant cette vidéo? Ils mettaient des choses. Avez-vous repéré des cours, dans ce cours, des éléments que vous voudriez tester dans votre classe? Voilà. Donc ça, c'était en parallèle de l'activité de formation. Vous voyez, pour recueillir et mieux comprendre les cours d'expérience là des stagiaires, en tout cas de certains, enfin là non, là, du collectif, puisque tous l'ont rempli, mais après il y a eu des modalités aussi de, donc il y a des modalités de questionnaire et des modalités d'autoconfrontation ici avec six étudiants qui étaient dans ce processus là de formation. Alors ce qui est intéressant, sans rentrer dans le détail de ce tableau, mais c'est de voir qu'il y a une dynamique émotionnelle liée à la confrontation à ces vidéos de classe très forte. Ça, par exemple, ce n'est pas du tout appréhendé part dans le lieu de formation et dans les perspectives d'exploitation dans le TD de formation. Donc vous voyez des émotions. Évidemment, donc le vidéo 1, c'est dans une vidéo où l'enseignante est assez en difficulté en début de carrière. Donc, vous voyez, 26 étudiants sur 33 qui sont globalement dans un sentiment d'inconfort. Sur l'autoconfrontation, c'est la 2. Oui, c'est la bleue, pardon. Pour l'autoconfrontation de l'enseignante, vous voyez que c'est médian. C'est-à-dire que là, on va moins dans les extrêmes. C'est d'avoir le point de vue de l'acteur, même sur sa vision de la difficulté dans la situation, c'est moins déstabilisant. Et puis, sur cette même enseignante 5 ans plus tard, eh bien là, c'est plutôt évidemment confortable de voir que, évidemment, elle s'est sortie de ses difficultés, elle a évolué, elle a progressé. Voilà. Ce que je vous montre là, c'est surtout pour dire que voilà, ces dimensions sont présentes, sont fortes dans le vécu des étudiants, et ce n'est pas du tout exploité en formation, dans le présentiel. Voilà. Deuxième résultat qui est intéressant, c'est en quoi ça fait écho à leur pratique lorsqu'ils visionnent un extrait de classe ou d'entretien d'un pair. Vous voyez, ça fait écho. Encore une fois, vous avez vu le 4 colonnes à renseigner qui n'est pas du tout sur ces volets-là. C'est-à-dire que ça, c'est l'activité invisible, silencieuse des étudiants. Et que quand ils regardent la vidéo, ils sont pas en train, là, en tout cas, quand ils viennent juste de le faire, ils sont pas dans l'activité de faire des hypothèses ou de référer à des modèles théoriques qu'ils auraient vus sur des cours en CM, etc., par rapport à ça. Ils sont dans une autre activité. Et on voit qu'il y en a donc 25 sur 33 à qui ça fait écho à leur pratique, que ce soit par rapport à des vidéos où le sentiment d'inconfort est fort, ou que ce soit dans des situations plus confortables. Donc ça aussi c'est intéressant, là encore, dans le dispositif, rien n'est prévu pour accueillir ce travail-là. Cette dimension-là de l'activité. Alors, je vous montre, là, je vais le lire, aller très rapide, parce que c'est des données que je viens juste de récupérer du travail de mon étudiante. Donc, le format n'est pas terrible, mais c'est pour vous montrer jusqu'où ça peut aller dans la façon dont les vécus, les décalages de vécu sont importants. Donc, vous avez une étudiante, là, qui s'engage dans le TD. Donc ça, c'est recueilli, évidemment, à partir de l'entretien d'autoconfrontation qui a été mené par mon étudiante après la séance. Voilà, je voulais un peu correspondre à ce qui était demandé. Ça, c'est son engagement de départ. Mais faire le travail aussi, mais que ça m'apporte à moi. Après, par rapport à la grille que je vous ai rapidement évoquée, là, elle dit « j'aime pas trop tout ce qui est méthodologie stricte ». Je préférais que ça soit plus libre, voilà. Ça freine un peu mon enthousiasme. Écho à des expériences vécues négativement. Donc là, déjà, je vois d'entrée que c'est une vidéo où l'enseignante, on va dire, en difficulté. Et direct, en fait, ça me rappelle le côté que j'aime le moins dans l'enseignement. À savoir le fait de devoir les remettre en place, la discipline, hausser la voix, avoir un peu ce rôle-là, etc. Et elle continue, interrogation sur son engagement professionnel. Là, ça me renvoie à quelque chose qui me fait peur dans l'enseignement et qui me fait même parfois me remettre en question si j'ai vraiment la vocation ou pas pour ça. Et ça va, ça continue. Immersion mimétique et empathie, on pourrait dire compassion, puisque là, on va voir que ça la bloque carrément. Bon, après, elle atténue un petit peu ses propos, mais en gros, elle finit par dire quand le formateur dit il faut répondre aux attentes, etc., déjà j'ai plus de motivation. Je suis dans ma tête, ça commence, voilà, je me suis éloigné d'eux, hein, par rapport au TD. Je me suis vraiment éloigné du côté pratique du TD. Et elle finit. Bon, je ne sais même plus si je regarde, compte tenu, vous voyez, il y a une sorte de dédoublement de son activité. C'est-à-dire que dans sa tête, hein, c'est ce qu'elle fait dans l'autoconfrontation, elle est ailleurs, hein, dans ses préoccupations, vraiment en lien avec sa propre pratique professionnelle. Et je suis tellement dans mon truc introspectif, et je vois les mots sur la feuille, mais je ne comprends plus rien. Voilà. Donc là, pour revenir sur ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure, sur l'incompréhension qui peut exister, ou les ambiguïtés qui peuvent naître dans un dispositif présentiel, où on a l'impression d'avoir tout le monde, évidemment, avec soi, plus ou moins, on ne fait pas trop d'illusions. Mais là, alors évidemment, là c'est extrême celui que je vous ai montré. Parce que si je continuais l'histoire de cette étudiante, ça ne va pas s'arranger. Parce que comme elle ne peut pas, elle n'a pas d'espace pour livrer ça, elle en parle à sa camarade à côté. Et sa camarade n'est pas réceptive pour ça. Et alors là, elle va se... C'est fini, quoi. Elle n'est plus du tout dans le TD. Il n'y a pas d'espace à ce moment-là où elle peut exprimer un tant soit peu ce malaise, ce mal-être, etc. Et du coup, elle n'est plus du tout dans ces processus évidemment réflexifs qui étaient visés par les formateurs. Donc, les questions, comment prendre en compte ces processus d'immersion mimétique et les articuler avec des processus réflexifs et d'imagination-projection. Et si je le renvoie à un questionnement plus large, en lisant vite fait quelques textes là que je ne connaissais pas dans ceux qui sont abondamment proposés pour préparer le stage, là, il y a des propos sur la médiation des savoirs. Donc là, vous voyez bien que si on n'est que sur la médiation des savoirs, on passe à côté de dimensions, et notamment sur du développement professionnel, qui sont essentielles, et on passe vraiment à côté. C'est-à-dire que c'est, quand je dis à côté, il y a une focalisation trop marquée sur les savoirs d'analyse, à référent à des théories, que ce soit... en termes de gestes professionnels ou sur des dimensions didactiques ou pédagogiques, et on passe à côté de processus qui sont dont qu'il faudrait essayer de mieux percevoir et mieux prendre en compte dans des dispositifs, mais du coup là des dispositifs forcément hybrides, parce que il va falloir faire avec l'individuel, le collectif, éventuellement le présentiel, le à distance, éventuellement avec sur la base de ressources, évidemment, puisqu'on voit bien ce que ça permet de déclencher très très rapidement. Voilà. Donc c'est un petit peu ces questions là qui sont derrière cette étude. Je sais pas, j'ai pas l'heure, donc je sais pas où j'en suis. Je vois qu'il y en a qui suivent.
C'est quoi ce logiciel où tu vois pas tes diapos, il n'y a pas le temps,
Il y a 10 000 trucs qui me sont inutiles, qui sont présentés, mais j'arrive pas à voir. Il faudra que je me forme avec Patrick. Ouais. Non, mais j'avais un ordinateur d'il y a 10 ans, donc c'était beaucoup plus simple. C'était mieux avant. Je ne me le suis pas approprié encore. Alors là, c'est même chose, on pourrait dire, mais vécu, donc un autre dispositif que j'avais analysé il y a quelques années. Mais du point de vue d'une formatrice. Et d'un point de vue, là encore, ça fait écho à ce qui était présenté juste avant, vécu d'une formatrice et très expérimentée, mais débutante dans un dispositif présentiel enrichi. Et là, on n'est que dans du présentiel enrichi. Et ce que j'avais montré au travers de cette étude, c'est qu'évidemment, ce format-là, d'une formatrice qui pour la première fois faisait cours avec, à l'époque c'était ses PLC2 dans les bâtiments de l'UFM, sauf qu'elle avait déplacé son cours dans la salle informatique avec une scénarisation, avec deux logiciels, enfin deux plateformes à aller voir, et un travail qui était évidemment prévu. Et elle a été évidemment très déstabilisée par ce format-là. Alors, vous avez quelques éléments là, que j'ai principaux de cette étude. Les problèmes qu'elle a eu à résoudre, c'est l'anticipation de l'organisation spatiale, le caractère déstabilisateur de ce nouvel environnement. Elle ne savait pas, un peu comme moi là ce matin, elle ne savait pas comment se positionner entre l'écran, le public, voilà. La répartition des étudiants, alors que ça posait visiblement beaucoup moins de problèmes pour les étudiants, par exemple, hein. D'aller s'installer à deux sur les machines, de partir tout de suite, lancer les logiciels. Là, en fait, elle était, c'était la formatrice qui, sur ces questions-là, qui était en auto-apprentissage et qui s'est appuyée dessus, quoi. Moi, je pourrais faire la même réflexion sur les forums, dans les pratiques que j'ai de formateur. Et je m'appuie sur les compétences de certains étudiants qui ont déjà fait des dizaines et des dizaines de forums et qui sont des leaders. Alors après, il faut les organiser, les canaliser, mais qui s'appuient aussi sur ces ressources humaines dans la situation. Voilà, alors un questionnement important sur... elle était tout le temps assez régulièrement en doute sur l'activité qui était réellement déployée par les stagiaires face à l'écran. C'est-à-dire que, bon, voilà, elle les envoyait sur l'écran, évidemment, il fallait les laisser travailler. Et pendant un moment... Alors, tout ça s'est construit par des autoconfrontations, à partir d'autoconfrontations avec la formatrice. Elle me disait, mais je ne sais pas ce qu'ils font là. Et du coup, alors ça c'était un problème. Peur qu'elle les perde, quoi. Problème de communication. Là on est sur du présentiel, mais problème de communication. Vous voyez la structure, elle avait que des dos tournés. Comment il travaille en binôme, comment intervenir là. Hein, donc elle a dû construire des moments, des indices qui lui paraissaient pertinents pour rentrer sans que ça déstabilise, qu'elle soit accueillie, qu'elle soit attendue un peu, etc. Donc elle a cherché à construire des sortes de fenêtres interactionnelles où c'était possible. Elle me disait non, là c'est pas possible, je vois qu'ils sont dans leur trick, et puis d'autres qui étaient plus ouverts. Voilà, inconfort par rapport à des stagiaires dos tournés, dilemme entre intervenir ou non, à quel moment arrêter le groupe pour reprendre un discours collectif. Problème par rapport à se mettre en position de formatrice et y rester. C'est-à-dire que là, eh bien, elle était dépossédée de son statut, enfin de son rôle de formatrice. Et à quel moment elle pouvait reprendre, à un moment donné, sa position de formatrice. Voilà. Donc quand je vous disais voilà des extraits hein, de verbatim, donc je m'assure que les stagiaires ont vu ça, effectivement ils ne l'ont pas vu comme elle aurait voulu qu'elle le voit. Là en fait je donne des éclairages, je prends une position de formatrice qui me pose à la fois des questions là où ils ne s'en seraient pas posés et quelques critères pour pouvoir évaluer la situation. Donc voilà, je donne une stratégie d'enseignement par exemple, etc. Donc là elle est dans son rôle de formatrice, elle a repris la main. Donc vous voyez que les tensions qu'elle a vécues, vous voyez que l'avantage du présentiel, c'est qu'elle a pu alterner quand même sur une séquence de 3 heures. Elle a alterné entre des moments où ils étaient à distance pour elle, tout en étant présent, et des moments où elle les reprenait dans un format, plus on voit mal, mais un format collectif, retourné vers elle, petit travail de groupe. Là, très expérimenté pour gérer ça. Mais du coup, c'est l'alternance entre ces différentes modalités qui, chez elle, provoquait alternativement de l'inconfort dans ces positions-là, de la perte de son rôle, de sa fonction de formatrice, et là, une certaine sérénité quand elle revenait dans ce format. Donc, vous voyez les difficultés pour une formatrice expérimentée. Donc, on imagine bien les difficultés que ça pose dès lors qu'on fait ça. Donc, on est amené à faire ça à distance. Voilà. Donc, du coup, comment accompagner les transformations des dispositions à agir des formateurs dans des environnements hybrides? Alors, déjà, c'est une forme d'hybridation. Mais quand on va vers du à distance, c'est évidemment encore plus compliqué. Une piste, moi, que j'ai expérimentée, un petit peu comme ça a été fait dans la présentation précédente, eh ben, c'est de faire vivre des modules ou des unités d'enseignement à distance par les formateurs, mais en lien direct avec leur pratique d'accompagnement professionnel. C'est-à-dire essayer de reconstruire des scénarios de formation de formateurs qui soient proches, mais au niveau de la formation de formateurs, juste décalés, mais qui seraient éventuellement transposables à leur niveau d'enseignants, de formateurs d'enseignants. Je ne sais pas si je suis très clair. Je vais juste montrer. Donc là, comme dans ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est un travail que j'ai proposé, qui a articulé deux ou trois plateformes en fait. À l'époque, c'était Dokeos, maintenant on va être sur Moodle aussi, avec Neopass Action et la BSD, la banque de séquences didactiques. Et voilà, donc avec un protocole de travail en 6 étapes qui leur a été proposé, vous regardez la vidéo de classe de ces enseignants, donc un travail de description, d'analyse. Oui, ça c'est des exemples enfin c'est les travaux qu'ils faisaient à distance, voilà. Donc leur travail de description, leur travail de commentaire, donc ça je récupère ça pour une trentaine ou une quarantaine de formateurs à distance. Donc vous voyez, il y avait deux vidéos, enseignants débutants et enseignants un peu plus expérimentés. Après, évidemment, moi, mon intérêt là, c'est de les amener sur qu'est-ce qui organise l'activité de ces enseignants, etc. Donc les faire travailler un petit peu là-dessus. Vous voyez, il y a des choses intéressantes, mais on n'a pas le temps, c'est pas l'enjeu là, sur la comparaison des deux enseignants. Troisième étape, que nous apportent les entretiens avec les enseignants par rapport à la vidéo de classe, hein, donc les entretiens d'autoconfrontation. Donc là, vous voyez des choses intéressantes. Cela permet de mieux comprendre, pour eux-mêmes, comme pour les formateurs, ce qui sous-tend l'activité de chacun de ces enseignants, d'éclairer celle-ci à la lumière des apports théoriques de la recherche, formaliser les gestes de professionnalité en construction, en situation. Consulter les vidéos commentaires, identifier des axes de réflexion proposition qui vous semblent intéressants à exploiter en formation. Voilà. Et puis consulter des scénarios aussi qui sont proposés dans la plateforme de formation et analyser un petit peu, voir et essayer d'analyser les intérêts et les limites de ces scénarios de formation. Donc là, j'ai des matériaux énormes parce que j'ai ça au moins pour 80 formateurs qui ont suivi ces UE. Ce sont des formateurs, soit formateurs UFM, qui sont dans le cadre, qui font un M2 formateur de formateurs. Mais là-dedans, il y a des enseignants qui sont sur le terrain et qui font de la formation ponctuellement ou qui interviennent comme conseiller pédagogique ou comme tuteur, maître formateur, voilà, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. J'ai pas fait le travail de Guillaume, par contre j'ai exactement la même chose puisque ça finit, vous voyez, par un forum, et le forum c'était intérêt et limite de l'exploitation de la plateforme Neopass Action. Donc là je pourrais faire le même déroulé, hein, d'un forum qu'a fait Guillaume tout à l'heure. Autre exploitation, par exemple, autre activité, une deuxième activité, là qui était plus libre, c'était le choix d'une séquence vidéo, soit sur Neopass, mais c'est eux qui le choisissaient. Donc là, le parcours n'était pas imposé, le travail n'était pas imposé, soit sur la BSD. Et évidemment, dans la perspective de l'utiliser en formation initiale. Et là, j'ai des choses très intéressantes avec des parcours qui sont construits par les formateurs, vous voyez, sur enseigner une langue vivante à l'école sans être d'un niveau expert. Voilà, donc ça, c'est tout le travail de la formatrice pour préparer sa situation de formation. Ouais, en fait, elle aurait été mieux tout à l'heure quand je parlais de la médiation centrée, focalisée sur les savoirs. C'est aussi s'appuyer sur d'autres types de médiation et essayer de les intégrer dans les dispositifs hybrides, puisque souvent on se centre évidemment sur cette médiation épistémique. Or, il y a de la médiation pragmatique, transformer sa propre activité, heuristique, dirigée vers soi-même, collaboratif, transformer l'activité avec des entre pairs ou dans les interactions avec un formateur, etc. Donc c'est s'ouvrir sur ces autres médiations, effets à produire, et comment les chercher à se poser la question de comment les produire dans un dispositif hybride. Voilà, et pour finir sur cette diapo très compliquée, mais je... Voilà. Donc, l'hybridation des dispositifs d'analyse de l'activité sur une échelle temporelle qui partirait d'accompagner le développement professionnel du début de la formation dans les stages de pré-professionnalisation jusqu'à l'entrée dans le métier. Voilà. Donc là, étayé, vous l'avez compris, par des dispositifs, des plateformes de type vidéo-formation qui sont particulièrement pertinentes et qui ont un potentiel assez important pour accompagner ce développement. Et du coup, c'est essayer de penser des dispositifs présentiels, collectifs, donc des dispositifs d'allo-confrontation individuelle et collectif sur, en lien avec ces environnements-là, donc avec un travail individuel qui peut être fait, qui peut être fait sur un environnement présentiel, un travail collectif qui peut être médié par le formateur, des simulations d'expériences accompagnées du type de celles que je vous ai montrées dans la première étude, qui peut être accompagnée par des formateurs ou éventuellement par des pairs à distance, enfin d'abord en présentiel et ou éventuellement à distance. Voilà. Et puis quand on rentre sur des phases de stabilisation et d'identification de difficultés professionnelles, donc là, dans ce démarrage-là, on travaille surtout, l'entrée, c'est de travailler en écho avec la pratique de pair. Mais on n'est pas au devant de la scène dans ces dispositifs d'analyse de l'activité professionnelle. Parce qu'on connaît les effets négatifs, potentiellement, d'une mise en scène trop rapide, particulièrement en public, de soi-même et de ses propres difficultés. Mais vous avez vu qu'au travers des dispositifs, que ce soit à distance ou en accompagnement individualisé, ces processus-là sont présents. Sauf que la plupart du temps, ils restent invisibles. Donc du coup, c'est comment les faire expliciter pour qu'ils soient exploitables individuellement et collectivement. Et quand on a un petit peu plus de bouteilles, on va dire qu'on a stabilisé, qu'on commence à stabiliser quelques gestes professionnels, on peut aller vers éventuellement des dispositifs d'autoconfrontation où c'est soi-même qui est l'objet même de l'analyse, dans des formats évidemment protégés avec des protocoles particuliers. Mais bon, là, c'est pas forcément très, très en lien avec la situation présentée. Je reste plutôt sur l'alternance entre des dispositifs individuels et collectifs en présentiel avec ces environnements numériques et avec des situations d'accompagnement qui restent en partie à imaginer et à construire pour un accompagnement à distance. Et si je finis là-dessus, je vais retrouver le problème du lien évidemment, on fait... je suis désolé, mais je vous l'aurai, vous aurez le lien. Le dispositif qui est imaginé là, c'est un dispositif proche de celui que j'ai montré pour la formation de formateurs à distance là, mais qui est à destination des enseignants en formation et qui est piloté là par un formateur en cohérence avec la demande institutionnelle du suivi d'enseignants stagiaires sur les versants didactiques et pédagogiques d'entrée dans le métier, sur un dispositif hybride où ils auront deux temps présentiels et le reste à distance. Donc ce qui est prévu, c'est de via la plateforme Moodle avec l'utilisation de Neopass et de l'ABSD, de faire un parcours donc qui commencerait par de la distance, mais sur des travaux similaires à ce que je vous ai montré là, mais adaptés pour des enseignants qui débutent, et avec un prolongement en présentiel et une reprise de ce travail individuel en présentiel sur les versants didactique, pédagogique, geste professionnel. Voilà. Pour finir, donc peut-être en conclusion, rester sur ces idées-là. Il me semble important par rapport à ces dispositifs hybrides de valoriser les pratiques réelles. Et il me semble que ce stage-là va tout à fait dans ces objectifs-là, c'est-à-dire de partager des expériences avec leurs difficultés, leurs limites, leurs apports, les avancées qu'elles permettent de mettre en évidence, plus évidemment par rapport à une fuite en avant technologique hein, de ce qu'il faudrait faire et de tous les outils évidemment qui seraient utilisables mais ça, on sait que ça ne fonctionne pas dès lors qu'on le ramène à des finalités particulières, dans des contextes particuliers de formation, avec l'idée que cette diffusion ne s'opère pas, hein, si je reprends cette citation, dans le vide social, elle ne procède pas davantage par novation ni substitution radicale, elle interfère avec les pratiques existantes qu'elle prend en charge ou réaménage. Et donc au travers des dispositifs de présentiel enrichi, par exemple, ou de présentiel amélioré, qui ne sont pas encore vraiment de la distance, il me semble que là qu'il y a des pistes pour réaménager, reprendre en charge de manière avec un décalage acceptable pour tel ou tel formateur, pour aller vers progressivement faire le pas du à distance qui pose encore de nouveaux problèmes. Voilà. Et donc accepter que ce soit un processus lent, mais parce que ça remet en cause. Ça a des incidences et des changements profonds sur les processus, évidemment, d'enseignement, d'apprentissage. Alors particulièrement, vous l'avez vu, quand il s'agit là de dispositifs d'accompagnement professionnel qui posent, dans du à distance, des questions encore plus difficiles, je dirais, par rapport à d'autres formes d'enseignement ou de formation, je dirais, plus académiques. Voilà.